Midi 23, de retour avec François Gagnon. En passant, bon après-midi, François. Content,
ben, toi aussi, mon vieux.
Que tu sois là.
Ben, mon jeune.
Non, mais par contre, là, je m'en vais. Je vieillis quand même, comme tout le monde. Et tout ça pour dire qu'il faut faire attention, mesdames, messieurs. Il faut faire attention. Parce que quand tu es dans la vingtaine, tu te sens invincible, tu peux manger n'importe quoi. Quand tu es dans la trentaine, au tout début, tu te fais avertir. Attention, fais attention, là. Oui. Et tu dis, ben non, il n'y a rien qui change, tout va très bien. Et le confinement et la sédentarité des deux derniers mois m'ont fait réaliser que mon métabolisme, oui, peut encore en prendre, mais pas mal moins qu'avant. Alors, on fait attention à ça.
Des petites questions ici. Là.
Vas-y, François.
Bon, tu sais, l'histoire des loyers commerciaux, là. Il y a beaucoup d'ambiguïté. D'abord, je veux dire, comme le premier ministre du Québec l'a dit cette semaine, il y a des propriétaires de locaux commerciaux qui sont pas très gentils, c'est-à-dire qui disent « on veut rien savoir ». Ça, c'est un point. Et il y en a d'autres qui prennent des moyens détournés pour ne pas accorder l'aide au loyer commercial, d'obtenir la subvention. Là, ils se disent « ben oui, mais là, j'ai pas d'hypothèque sur mon immeuble, donc je peux pas m'inscrire ». Je serais d'accord, mais je peux pas m'inscrire, j'ai pas d'hypothèque. C'est faux. Hein? C'est changé, ça aussi. On l'a changé. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de locaux commerciaux que des propriétaires avaient et qu'ils n'étaient pas grévés par une hypothèque. Alors donc, on s'est dit, on va changer ça. Alors, on l'a changé, on l'a enlevé, cette condition-là. Alors donc, qu'il y ait hypothèque ou non, le propriétaire peut faire la demande de la subvention pour obtenir le crédit pour le loyer commercial. Il s'agit tout simplement d'avoir un bail avec un locataire. C'est le propriétaire qui en fait la demande. Et ensuite, ben, le propriétaire renonce à 25% de ses revenus. Le locataire paye 25% et 50% est payé à part égale entre le fédéral et le provincial. Mais je rappelle encore une fois, il n'y a plus de conditions d'hypothèque sur l'immeuble pour obtenir cette subvention-là.
François, peux-tu te raconter un truc que Luc Ferrandez me disait? La première fois que je l'ai rencontré, quand il était embauché ici, je suis allé lui poser la question parce que j'habitais sur le plateau et j'étais inquiet de voir la rue Saint-Denis avec tous les loyers alloués. Et vacant, là. La rue Mont-Royal aussi, puis qui semble dépérir à cause de cette situation-là. Tu sais, tu vois alloué un peu partout, tous les coins de rue ou presque sont alloués. Le MEX Rachel et Saint-Denis est placardé depuis maintenant à peu près 5 ans.
Okay.
Alors, je parle de ça avec M. Ferrandez. Mm-hmm. Et il me dit, écoute, le concept de surenchère existe. Il y a des propriétaires richissimes à un point tel qu'ils ne souhaitent pas louer à des petits entrepreneurs, des petits commerçants qui attendent la bannière qui sera là pendant, tu sais, ad vitam aeternam, avec aucun problème. Et ça existe plus qu'on pense, en des propriétaires très, très riches.
Ouais, mais là, il va falloir qu'on fasse attention, parce que là, les grosses bannières très, très riches sont pas mal moins riches aujourd'hui. Là.
Ben, t'as vu Boeing? Ben, qui était un mastodonte, qui était insubmersible.
Ouais, et là, il est en train de couler avant même le COVID, lui, à cause du 737 Max. Là.
Ouais.
Mais tu vois, des grosses chaînes commerciales comme Aldo, comme Reitmans, puis il va en avoir d'autres là, qui vont être en restructuration assez rapidement. Moi, je te dis, d'ici 2 prochains mois, il va y avoir une hécatombe dans le domaine de la vente au détail. Et alors, les gros noms, là, solides, comme on en avait il y a 2 mois et demi, il va en avoir pas mal moins. Là. Alors donc, si tu veux garder tes locaux commerciaux vides et que tu fais aucun sacrifice pour être capable de les louer, les gens sont en affaires pour faire de l'argent. C'est ça, c'est normal. Moi, j'ai rien contre ça. Mais quand on est en période de crise comme celle que l'on connaît présentement, là, on a besoin d'entraide, tout le monde. Tout le monde a besoin de s'entraider. La raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné, parce qu'il y a eu de l'entraide, il y a eu de l'aide des gouvernements, il y en a beaucoup qui ont mis la main à la pâte pour les personnes les plus pauvres. T'as vu, hein, t'as 322 000 personnes qui, de façon régulière, vont chercher de quoi à bouffer. dans les centres alimentaires. C'est pas des blagues, là. Et il y en a 24% qui se disent que d'ici les deux prochains mois, s'il se passe rien, ben, eux aussi vont être obligés d'y aller. Et on peur de ne pas être capable de mettre du pain sur la table pour leurs enfants. Alors donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose quelque part.
À Montréal, une famille qui, depuis la fermeture des écoles, a indiqué, c'est un article de Radio-Canada il y a à peu près deux semaines, devoir payer désormais 1 000 $ de peine et de misère de plus par semaine parce qu'ils comptaient, eux, sur un repas qui était servi en début de soirée dans un centre communautaire et le déjeuner le matin, le club des petits-déjeuners à l'école.
Ah, ben oui.
Alors
ben
là,
oui.
Depuis ce temps-là, là, ça vient de contrecarrer leur plan et c'est encore plus difficile. On creuse les inégalités, là.
Tout à fait. Alors donc, il va falloir faire très attention. Et il va falloir faire très attention également aux différents programmes qui sont offerts, parce que là, il y a eu certaines ambiguïtés. J'en ai peut-être créé une il y a deux semaines avec le PIRT, là. Alors le PIRT, c'est le revenu maximum que vous devez prévoir pour cette année de 28 600 $, mais ça comprend tout, là. Oui. Si vous êtes à la retraite, par exemple, vous avez 65 ans, vous avez continué de travailler dans un service essentiel. En théorie, entre parenthèses, vous auriez droit donc au programme incitatif de retenue des travailleurs essentiels à 100 $ par semaine. Sauf qu'il faut inclure dans vos revenus votre sécurité de vieillesse, donc ce qu'on appelle la pension du Canada, là, la régie des rentes du Québec. Si vous avez une pension de votre ancien employeur, par exemple, ça compte aussi là-dedans. Si vous avez des gains, par exemple, en dividendes, en intérêts ou encore un gain de capital, ça compte là-dedans aussi. Alors donc, à la fin, il y a beaucoup de personnes de 65 ans et plus qui seront éliminées de facto strictement par les revenus qu'ils ont de leur retraite et non pas de leur travail. Pourtant, en temps normal, ils pourraient l'obtenir, le fameux 100 $. Mais là, il faut compter tous les revenus. Et le revenu maximum de travail pour obtenir le PIRT est de 550 $. Donc, les personnes qui sont au travail normalement, là, et qui sont pas à la retraite, eux autres, ils n'auront pas de problème. Parce que 550 $, ça fait ça, 28 600 $ pour l'année. Mais par contre, si vous êtes à la retraite et que vous avez continué de travailler, soit que vous vouliez ou que vous en avez besoin, malheureusement, vous serez pas admissible au PIRT si vous dépassez 28 600 $ avec tous les revenus.
Parfait. Excusez-moi, j'ai dit 1 000 $ par semaine là pour la famille en question, c'est 1 000 $ par mois de plus.
Oui.
Mais tu sais, ça fait une grosse différence.
Non, non, ben c'est 250 $ par semaine, c'est
voilà.
Quand même là.
C'est pas une famille nombreuse
qui est pauvre,
là.
Tu sais, pour les personnes pauvres, là, c'est 250 $, là, ça compte beaucoup, là.
Énorme. Tu me disais hier, tu m'as donné les chiffres là, d'augmentation pour l'épicerie au Québec en général à peu près.
4,1% au cours du dernier mois.
Quand même.
C'est là que ça... Ben, tu sais, 4,1% dans un mois, là. Et, tu sais, regarde, on a vu des augmentations dans le papier de toilette, on a vu des augmentations dans la viande, on a vu des augmentations dans les céréales. Puis là, on risque d'en avoir davantage. Tu me parlais, tu sais, tes asperges tantôt, là. Si t'en jettes des milliers de tonnes, là, comment tu penses que tu vas les vendre, tes asperges?
Ouais.
Tu vas les vendre plus cher, là, parce qu'il va falloir que tu rentres dans ton argent. Puis ça va être le même problème pour les fraises, ça va être le même problème pour le maïs au mois de septembre, ça va être le même problème pour les tomates, ça va être le même problème pour tout.
Tout à fait.
Il va falloir s'attendre. C'est ça, là. Tu sais, quand tu parles de sécurité alimentaire, ça parle aussi de... Ben, regarde, ton lait, là, c'est réglementé, il n'y a pas trop de problèmes, là. Mais regarde, ils n'arrachent en bébite les producteurs de lait. Tu sais, quand tu es obligé de jeter ton lait parce que la demande n'est pas là, il y a un problème. Tu sais, il y a un véritable problème.
Gros
problème.
Pourtant,
pendant ce temps, ben, c'est un gros problème, là. Tu sais, pendant ce temps-là, tu vois des familles pauvres, là, qui auraient peut-être besoin de ce lait-là et qui n'ont pas le moyen de s'en acheter parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Tu sais, regarde, il faut trouver une solution, là.
Puis, tu sais, ce qu'ils disaient, les producteurs de lait, ben oui, ils aimeraient ça, les distribuer, les laits en trop. Mais tu peux pas... Il y a une question de logistique, de transport qui est impossible. Des questions sur le PIRT. Stéphanie est là. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour à vous deux. Je vous remercie de prendre le temps de répondre à nos questions. Ça nous rassure. Alors, moi, je vais essayer de faire ça vite. Ma fille travaille dans un service essentiel, donc dans une épicerie. Elle bénéficie du 2 $ de prime par semaine, par heure, excusez-moi, jusqu'au 31 mai. Nous avons fait la demande en ligne pour le PIRT, mais c'est un peu les questions que j'ai devant moi là sont un peu floues. On nous dit qu'il faut pas qu'elle dépasse 550 $ de revenus par semaine. Je comprends, mais elle a un horaire variable. Donc, ça veut dire qu'il y a des semaines où elle fait 23 heures, donc moins de 550. Et il y a des semaines où si elle fait 39 heures, elle va faire un peu plus que 550 à cause de son 2 $ de prime.
Bon, alors
est-ce
la façon...
Elle a le droit ou pas?
Oui, elle a le droit pour les semaines où elle gagne moins de 550 $. Là, c'est divisé par semaine, si vous avez remarqué, là. Alors, première semaine, première séquence, du 15 mars, je me souviens pas les dates exactes, là. Alors, mettons, dans cette semaine-là, elle a gagné 540 $, elle indique 540. Automatiquement, elle a le droit aux 100 $. L'autre semaine, elle a gagné 575, elle n'est pas admissible. L'autre semaine, 340, elle est admissible. L'autre semaine, 650, elle n'est pas admissible. Et ainsi de suite pour les 10 premières semaines, là. Alors, c'est comme
Mais
ça que ça fonctionne.
Excusez-moi, quand on fait la demande en ligne, on ne demande pas de spécifier nos semaines.
Ouais, mais,
tout ce qu'on demande, c'est estimez-vous que vos revenus de travail admissibles, tirés de votre emploi dans un secteur lié aux services essentiels, seront d'au moins 1 $ ou d'au plus 550. Mais comme son horaire de travail est variable, c'est difficile de le prévoir.
Bon,
de quelle façon ils vont vérifier ça?
Bon, ben moi, je vais rester à l'écoute, là. Pendant la pause commerciale, je vais m'inscrire sur mon dossier à moi, là, puis je vais aller tout vérifier ça pour vous.
Parfait, parce que j'ai fait l'exercice sans nécessairement compléter le processus.
Oui.
Et on ne nous demande pas semaines pour que les montants
pour
les semaines.
Je vais aller le vérifier parce que normalement, on devait le faire. Alors, j'ai pas droit à ça, là. Je suis pas allé vérifier, mais je vais aller le vérifier pour vous tantôt. Restez à l'écoute après la pause commerciale de tantôt, là. Je vais tout vous renseigner.
Parfait. Merci, Stéphanie.
Je vous remercie beaucoup.
Fait plaisir.
Bonne journée. Au revoir.
À vous aussi.
Et merci, François. Regarde, tu peux commencer maintenant parce que Denis est en studio pour faire quelques manchettes. Alors,
bon. Merci
de faire les vérifications. Et Denis Couture de Cogeco Nouvelles. D'abord, la Chine, et ça, c'est inquiétant, là, parle de guerre froide.
Oui, le ton monte vraiment entre la Chine et les États-Unis. Là, c'est la Chine qui avertit qu'il y a des risques d'une guerre froide avec les États-Unis. C'est le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a déclaré ça aujourd'hui. Et je vous fais un petit résumé de ce qu'il a dit, là. Ça donne le ton un peu. Il dit qu'en dehors de la dévastation causée par le nouveau coronavirus, il est regrettable qu'en dehors de cela, il existe également une sorte de virus politique qui se propage aux États-Unis. Et ce virus politique est le moyen de saisir toutes les occasions d'attaquer et de salir la Chine. Certains politiciens ignorent complètement les faits et ont fabriqué trop de mensonges visant la Chine et fomenté trop de complots. On vise évidemment le président Donald Trump avec cette déclaration-là, qui n'est pas nommé, par contre, le président Trump, qui critique régulièrement la Chine là, pour sa gestion de la crise de la pandémie de la COVID-19. Et parallèlement à cela, Jeffrey, il y a des centaines de manifestants qui sont descendus dans les rues de Hong Kong aujourd'hui. Alors, c'est un autre élément qui peut faire monter la tension entre les deux pays. C'était un mouvement de protestation contre un projet de loi sur la sécurité nationale que la Chine tente d'imposer. Les manifestants se sont vêtus de noir pour signifier ce qu'ils considèrent être une atteinte à leurs droits et à leur liberté.
Et souviens-toi, avant la pandémie, il y avait de nombreuses manifestations à Hong Kong. La tension était déjà très présente.
Oui.
Et puis, c'était un mouvement pro-démocratie. Alors, la mainmise de la Chine sur Hong Kong avec cette loi-là devient plus importante.
En effet.
La visite, et là, c'est la deuxième fois que dans le ciel de Montréal, pour atterrir à Mirabel, et surtout, ce qui est impressionnant, c'est quand tu regardes l'appareil à côté d'un appareil normal, à côté d'un 737, par exemple.
Ah, c'est massif.
Oui, tout à fait.
On se demande comment ça peut voler, mais ça vole. Et ça fait très bien le travail. L'Antonov, qui est le plus gros avion au monde, qui s'est posé à 7h30 ce matin à Mirabel pour livrer une importante cargaison de matériel médical. Il l'arrivait de Tianjin, en Chine, justement, transportait 130 tonnes de jaquettes de protection destinées au Canada, au gouvernement canadien. C'est la deuxième fois, donc, comme tu le disais, Jeffrey, en moins d'un mois que l'Antonov s'amène au Québec, atterrit à Mirabel avec une livraison de matériel médical.
Bonne nouvelle, on manquait de jaquettes dans les derniers jours.
Voilà.
Alors, très bien, merci Denis.
Plaisir.
François, on va revenir dans un petit instant. On va faire un blitz d'appel à 12h37 pour nous joindre 514-790-9850 et 1-866. Et ensuite, c'est la même chose, 790-9850.